Pourquoi je me réjouis pour ce temps de louange, merveilleux Seigneur. Nous t'adorons, merveilleux Seigneur. Il est le Dieu merveilleux. Ses merveilles remplissent l'univers. Et les découvertes scientifiques ne font que dire ses merveilles. Quand nous prenons le temps de visiter la création de Dieu, nous sommes émerveillés par la nature, par les paysages. Il y a des émissions qui vous montrent les paysages les plus reculés du monde et vous êtes toujours en train de dire « Waouh !» Et tout cela est la création merveilleuse de Dieu. J'ai commencé avec vous il y a quelque temps une série, et c'est celle-là que nous allons poursuivre pour ce mois de mars. Vivre dans la maison de Dieu. Vivre dans la maison de Dieu. Quelquefois, on dit « je vais à l'église ». Et le fait de dire « je vais à l'église » peut avoir une connotation qui n'est pas toujours celle que ça veut dire. En général, quand on dit « je vais à l'église », on dit « je vais dans le bâtiment » qui s'appelle Église, n'est-ce pas? Pour nous tous, c'est un peu ça. Hein? Et moi avec, bien sûr. Mais est-ce que c'est ça que ça veut dire, aller à l'Église? Est-ce que finalement, l'Église, ce n'est que le bâtiment? Et quelquefois, c'est vrai que la question du bâtiment peut être contraignante pour quelques-uns. Moi qui suis d'arrière-plan catholique avant ma conversion, c'est vrai que pour moi, l'église, c'était d'abord ce bâtiment imposant. Et puis, quand le Seigneur m'a touché, en fait, j'ai commencé à fréquenter des églises qui, pour moi, n'étaient pas des églises, c'était juste des maisons. Et c'était un choc. Parce que la première église que j'ai fréquentée, ils étaient en train de chercher les financements pour construire l'église. Donc, pendant ce temps, ils avaient investi l'une des maisons d'un des frères de l'église qu'il avait donné à l'église le temps qu'il est, voilà, qu'il puisse finir. Et il y avait une grande salle et c'est là qu'on se réunissait. Et même que cette église refusait du monde. Mais c'était un pavillon, donc c'était un peu bizarre. Parce que pour moi, aller à l'église, c'était vraiment aller dans ce bâtiment qui est spécial, qui est particulier, hein, qui a une architecture bien définie. Et le thème que je vous présente aujourd'hui, c'est de voir est-ce que c'est ça l'église. Est-ce que c'est ça l'église? Il y a 2 semaines, l'humanité a fait une prouesse. Mais ils avaient déjà fait cette prouesse il y a 20 ans. L'humanité a été capable de ramener, de renvoyer sur la planète Mars une seconde sonde. Cette sonde s'appelle Persévérance. Je suis toujours étonné des noms qu'ils donnent aux sondes. Persévérance. Et cette sonde s'est posée au millimètre près comme on le voit. Allez voir la distance qui nous sépare de Mars, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais l'être humain a été capable de faire ça. Waouh. Cela montre combien de fois nous sommes ingénieux au bien. Et le texte biblique ne dit pas autre chose. La Genèse dit que Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés dans cette capacité intelligente d'innover, d'explorer, de découvrir. Donc, il nous a créés comme ça. Il faut lire les premiers livres de la Bible pour voir que cette intelligence, elle était déjà là. La capacité qu'avait l'homme de maîtriser la nature, de développer des civilisations, jusqu'à la fameuse tour de Babel. Hein, ils avaient déjà essayé. C'est pas que Dieu était contre qu'ils soient très ingénieux. C'est que, en tout cas, dans ce texte, ils avaient commencé à perdre l'objectif pour lequel Dieu leur avait dit d'investir la terre. Et c'est pour cela que finalement, Babel, qui se présente comme, quelquefois on le présente comme une malédiction, est finalement devenu quand même une bénédiction. Parce que c'est de Babel que nous avons aujourd'hui, hein, cette richesse des langues. Hein, les langues multiples, en tout cas dans la conception biblique, nous viennent de cet événement qui, au-delà de l'aspect tragique, Dieu trouve toujours l'opportunité de semer le bien, même dans nos bêtises. Même dans nos bêtises. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que, avec l'intelligence que Dieu donne à l'humain, c'est que l'humain est capable de faire, c'est effarant, et pourtant, l'humain n'est pas capable d'éradiquer la violence. Nous sommes capables d'aller si loin dans l'univers. Nous ne sommes pas capables d'éradiquer la violence. Cette semaine a été encore tragique pour la France. Des adolescents, rien du tout, ont perdu la vie par la faute de d'autres adolescents. Ce n'est pas nouveau. C'est amplifié. Mais ce genre d'événement nous rappelle que, aussi intelligents que nous sommes, le mal est toujours tapis. Aussi ingénieux que nous sommes, le mal est toujours tapis en nous. Et notre intelligence, notre évolution, nos progrès, nos civilisations ne changent pas le mal qui est tapis en nous. Au contraire, plus nous progressons, plus nous évoluons, plus nous avons la capacité de nous nuire. Quand Einstein a découvert cette formule de la mathématique quantique, qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait deux bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki. C'est incroyable. Il a trouvé une formule qui allait révolutionner l'énergie et produire, en tout cas en termes de progrès, on a été capable d'en prendre, de le prendre cette formule et de créer cette monstruosité. Hiroshima et Nagasaki. On est tordu. Qui est capable de nous redresser? Le prophète Jérémie disait à juste titre, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, c'est-à-dire le cœur de l'homme est tellement incliné vers le mal que seul Dieu est capable d'en faire quelque chose. Il suffit de regarder l'actualité dans tous les continents de notre planète. L'Amérique, il y a eu cette vague de violence incroyable il y a quelques mois. Les Américains ont été divisés dans une civilisation dite le modèle de la démocratie. On a vu quelque chose qui était terrifiant pour les Américains eux-mêmes et pour nous tous, n'est-ce pas? L'Afrique, on dit que c'est le continent le plus riche en termes de minerais, en termes de sous-sol, c'est le continent le plus riche, et même c'est le continent le plus riche en termes de ressources humaines parce que c'est la population la plus jeune du monde entier. Et pourtant, c'est le continent le plus pauvre. Incroyable. C'est le continent où il y a plus de guerres. C'est fascinant comment on est fort dans le mal, n'est-ce pas? Ne parlons pas de l'Europe, mes frères. L'Europe a tellement engrangé des richesses qu'elle a fini par être avare. L'individualisme, c'est une forme d'avarisme. Chacun est chez lui, chacun développe sa propre intimité, chacun développe sa propre richesse. De temps en temps, on en distribue un peu pour que ceux qui n'en ont pas aient, mais le fossé, il est toujours là. Ce phénomène commence à arriver aussi en Afrique, et quelqu'un a posté sur l'une de mes pages ce phénomène qui est ici et qui est tellement régulier qu'il commence à devenir banal. C'est qu'il y a des personnes âgées d'un certain âge qui décèdent. Et parfois, il s'écoule toute une année sans qu'on sache que la personne est décédée. Ça veut dire que ces personnes vivent tellement seules. Personne ne les visite au point où elles décèdent chez elles. 12 mois passés, sans que personne ne sache que cette mamie, que ce papy, il est décédé dans sa maison, dans son appartement. Incroyable. Ce n'est pas le Covid qui va arranger les choses. Avec cet isolement. L'Asie, n'en parlons pas. Avec ce totalitarisme, avec toutes ces questions de puissants, de faibles, il y a aussi des guerres là-bas. Donc c'est un schéma, c'est un tableau sombre. Et pourtant, on dit qu'on est évolué et qu'on est capable de se prendre en charge. C'est là que vient l'intérêt de l'évangile de Dieu. C'est là que vient l'intérêt de Dieu dans le cœur des hommes. Cette longue introduction pour vous dire que le seul qui est capable de nous changer radicalement notre cœur qui tend toujours vers le mal, de le changer pour qu'il tende toujours un peu plus vers le bien, c'est Dieu. Ce n'est ni la technologie, ce n'est ni l'évolution, ce n'est ni le progrès. Toutes ces choses sont bonnes, mais elles ne nous changent pas fondamentalement. Si on n'a pas compris ça, on peut continuer à espérer dans des choses qui vont nous décevoir. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul écrit à son jeune serviteur Timothée, et c'est cette épître que nous allons regarder ce matin. Il a fait 12 années de ministère. Il a traversé, en tout cas, à l'époque, le monde connu pour annoncer cette bonne nouvelle, pour dire aux hommes, aux femmes, il était du siècle où l'Empire romain était dans son apogée, avec toutes les innovations sociétales, civilisationnelles. Et l'apôtre Paul dit, c'est pas ça qui va nous sauver. C'est Jésus-Christ. C'est même pas César, l'empereur. C'est le Seigneur Jésus. Vous savez, dans le Nouveau Testament, dans la bouche de l'apôtre Paul, l'appellation Seigneur Jésus, c'était pour contrecarrer le fait qu'on appelait César Seigneur. Il dit, le vrai Seigneur, c'est pas l'empereur. C'est Jésus-Christ. Parce qu'il y a que lui qui est capable de nous donner la vraie vie. Et alors que l'apôtre Paul arrive au bout de son ministère humain, il sent que le Seigneur va le rappeler bientôt, qu'il va passer par la mort. Il dit à Timothée, moi je vais partir. J'ai travaillé comme j'ai pu, avec la force que Dieu m'a donnée. Je vais passer le relais à vous qui êtes plus jeunes. C'est à vous de continuer cette mission. Mais il faut que tu mettes les choses en ordre. Une des églises qu'il a fondées, qui s'appelle Éphèse, où il avait vraiment passé du temps à enseigner les gens, il se trouve qu'à un moment donné, cette église a commencé avoir des soucis de doctrine, d'enseignement, de la parole de Dieu. Et il dit, Timothée, je t'envoie à Éphèse, je te laisse là-bas pour que tu mettes les choses en ordre. Que tu dises aux gens comment ils doivent vivre. Parce que l'église, c'est pas un bâtiment, l'église, c'est la maison de Dieu. Et c'est ce texte que nous allons regarder ensemble pour nous encourager ce matin. Nous qui sommes des enfants de Dieu, il est important que nous puissions nous rappeler qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici, ensemble. 1 Timothée, chapitre 1. À partir du verset 1, je lirai du verset 1 au verset 5, du verset 15 au verset 16, et je lirai du verset 18 au verset 19. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Salut Timothée, son véritable enfant dans la foi. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, bonté et paix. En partant pour la Macédoine, je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse, ou averti certains de ne pas enseigner des doctrines étrangères à la foi. Qu'ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies interminables. Des préoccupations comme celles-là font naître des spéculations au lieu de nous aider dans la responsabilité de Dieu que Dieu nous a confiée dans l'œuvre de la foi. Verset 5. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de ces principes et se sont égarés dans des argumentations sans aucune valeur. Verset 15. La parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'être d'entre eux, mais Dieu a eu pitié de moi. Pour cette raison, Jésus-Christ a voulu En moi, l'exemple type des pécheurs montrait toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Versets 18 et 19. Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse, en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage, malheureusement. Dans ce premier test que Paul écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit à Timothée, il est préoccupé parce que l'Église ne vit plus ce que Dieu lui a demandé de vivre. Et puis, quelques-uns qui sont responsables sont même la cause de ce qui arrive à cette Église. Il dit à Timothée, tu vas y aller et tu vas vraiment redire les choses que Dieu nous a dites, qu'on a enseignées dans cette Église, pour que les hommes et les femmes qui sont des enfants de Dieu ne s'égarent pas. À la fin du verset 19, il dit malheureusement, certains ont fait naufrage par rapport à leur foi. C'est-à-dire qu'ils se sont égarés de la foi selon Dieu. Il dit, je t'ai laissé là pour que tu mettes des gens en garde, parce que ceux-là commencent à faire entrer dans l'Église des doctrines, et il le dit avec force, des doctrines de démons. Hein? Il le dit à dessein, c'est pas que ce soit forcément des démons, mais il dit c'est des doctrines pernicieuses qui si elles sont pas arrêtées, elles vont détourner même des chrétiens de la vraie foi. Et qui fait ça? Bah, c'est les démons, c'est le diable, puisque l'objectif du diable, c'est de détourner les croyants de Dieu. Et quelles sont ces doctrines? Il dit malheureusement, et quand on lit toute l'épître à Timothée, Timothée 1, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, et qu'on lit aussi d'autres lettres de l'apôtre Paul, on arrive à identifier, en tout cas, certains spécialistes ont identifié ces doctrines-là qui continuent aujourd'hui, sous notre forme. Et c'est pour cela que le chrétien doit être alerté, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, tout le monde croit avoir accès à toute la bonne nourriture spirituelle. Tout le monde croit que sur Internet, tout ce qui est marqué biblique ou commentaire biblique est bon à prendre. Et tout le monde n'a pas le discernement pour savoir dans tout ce qu'on nous balance sur Internet, même si ça parle de la foi chrétienne, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Et c'était le cas de l'église d'Éphèse avec Timothée. Quand Paul a envoyé Timothée, c'est parce que justement les chrétiens dans l'assemblée n'avaient pas encore cette maturité pour discerner ce que ces quelques responsables enseignaient et qui étaient faux. Il y en a qui enseignaient la bonne doctrine, mais parmi eux, il y en a qui enseignaient des choses qui n'étaient pas justes. Pauvres chrétiens, comment allait-il faire la différence? Et Paul dit à Timothée, va pour délivrer, pour aider ces enfants de Dieu à ne pas être détournés de la vraie foi. Il y a quelques 6 doctrines qu'on recense. Le gnosticisme, hein, c'est une façon de dire la connaissance. C'était une doctrine qui disait qu'il faut une certaine initiation, une certaine connaissance pour être sauvé. Il suffit pas juste de croire en Jésus. Non, on a besoin encore de connaissances spécifiques. On a besoin d'être des initiés. On a besoin même d'être des élus particuliers dans une connaissance particulière pour être sauvé. Oh, quelle est cette affaire? Jésus dit, mon enseignement, il a toujours été public. Je n'ai rien caché. Il n'y a pas de rite caché. Jésus dit, je n'ai pas de secret à cacher. Tout ce que j'avais à dire, je le dis publiquement. Mon enseignement, il est public. Et eux, ils disent, ouais, c'est vrai, mais il y a quand même des petits trucs à savoir. Et ça, quelquefois, on l'entend beaucoup aussi dans les milieux chrétiens. N'est-ce pas? On entend beaucoup que ça ne suffit pas juste d'être sauvé, qu'il faut en plus vivre autre chose. Quelquefois, on nous enseigne même, dans certaines sphères dites chrétiennes, qu'il faut des pratiques particulières pour que notre salut soit affermi. Non, la Bible dit, celui qui croira en Seigneur Jésus sera sauvé. C'est tellement simple parfois qu'on dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible.
Il faut juste croire.
Oui, mais il faut définir ce que c'est que croire. Parce que le mot croire a perdu sa force. Croire, c'est pas juste que j'accepte une pensée qui me plaît. Non. Croire, c'est adhérer à la vérité qui est annoncée par Dieu. Et adhérer à la vérité qui est annoncée par Dieu, ça veut dire que aussi conséquemment, je vais vivre cette vérité-là. C'est ça, croire. Si je crois en ma femme, ça veut dire que j'ai confiance en elle. Ça veut dire que si elle me dit quelque chose, a priori, c'est toujours avec confiance que je vais l'écouter. Parce que j'ai confiance, parce que j'ai foi en ma femme. Si j'ai pas foi en quelqu'un, quelles que soient les belles paroles qu'il va dire, oulala, 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 celui-là, mon Dieu, faut vraiment s'en méfier, hein. Même si ça paraît, il faut quand même vérifier avec lui. Quand on a confiance en Dieu, on peut pas juste arrêter dans une croyance, dans notre intelligence. Ça doit se manifester dans notre quotidien, dans notre vécu, dans nos comportements. C'est pour ça qu'on dit que la foi chrétienne n'est pas juste une foi théorique ou théologique. Elle est aussi éthique et morale. C'est-à-dire, ce que je crois implique une façon de vivre autre. Ce que je crois influence mes pensées, mon comportement, mes habitudes, mes relations, influence toute ma vie. Si c'est pas le cas, ça veut dire que je n'ai pas encore cru. Parce que croire en Jésus, c'est-à-dire accepter que ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait est vrai. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, vous êtes tous pécheurs, nous sommes tous pécheurs. Et qu'aucun de nous ne peut aller au paradis si on reste dans cet état-là. Et que si on reste dans cet état, comme je l'ai dit en introduction, bah on est tous conduits par le mal. Quels que soient les 90% de bien qu'on est capable de faire, il y a quand même 10% de mal qu'on fait quand même. Et ces 10% de mal qu'on fait blessent, font du mal à d'autres personnes. Donc, on n'est pas éligible pour aller au paradis. Ne serait-ce que dans nos pensées. Et Jésus dit, la solution, c'est que moi, j'ai payé le prix pour vous, parce que vous n'étiez pas capable. Moi, j'ai fait le sacrifice qu'il fallait, et que désormais, c'est lui qui me fait confiance. Il va voir. Non seulement que les choses vont changer pour lui ici-bas, mais pas les choses matérielles, mais les choses intrinsèques, les choses qui sont dans l'être intérieur. La personnalité va changer, la façon de vivre les choses vont changer, la façon de concevoir les choses vont changer. Et ça va avoir un impact tellement positif sur ceux que vous aimez, et même ceux que vous n'aimez pas, que les gens vont s'interroger. Et puis, ça vous donne aussi cette opportunité, comme il a dit dans le texte, d'être prêt pour la vie éternelle. Il dit que la foi en Jésus-Christ a les promesses non seulement de la vie présente, mais aussi de la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus gagne à double titre. Il gagne une vie ici, conduite par Dieu. Or, Dieu est un Dieu d'amour. Donc, le projet de Dieu est un Dieu, est un projet d'amour pour toi. Et en plus, lors de notre départ de cette terre, il nous garantit que notre vie éternelle sera dans ce paradis où il y a la félicité, où il y a la joie. Quand on sait toutes les théories qu'il y a sur la mort, ceux qui sont athées, qui ne croient en rien, ils ont résolu le problème. Il dit, de toutes les façons, quand on meurt, on ne devient plus rien. Ça s'appelle l'aliénisme. Donc, ça résout tout. Si je ne deviens plus rien, de quoi ai-je peur? Mais on voit bien que c'est parce qu'il y a une crainte qu'on a construit cette théologie. C'est parce qu'il y a une crainte qu'on a construit cette croyance. Si on a peur de rien, pourquoi on dit qu'on devient du néant? C'est facile de dire on devient du néant parce que, de toutes les façons, après, je n'ai plus de juge, je n'ai plus de corps, je n'ai plus de pensée, je n'ai plus d'existence, je n'ai plus d'âme. Donc, ma vie après ma mort ne m'intéresse pas. Et ça, c'est un gros piège. C'est un gros piège que Satan a subtilement infusé dans l'humanité. Le piège qu'après la mort, il n'y a plus. Alors que Dieu dit clairement qu'après la mort, il y a la vie. Soit la vie éternelle, soit la vie qui s'appelle la mort éternelle. Que nous sommes des êtres composés au moins de deux entités, notre corps et notre âme. C'est un histoire. Mettre l'esprit aussi. Mais au moins, ces deux-là font que nous vivons en tant qu'êtres humains terrestres avec ce qu'on appelle le principe de la vie. Et c'est quand ce principe de la vie nous quitte qu'on est mort. Mais ce principe de la vie, la Bible l'appelle une âme vivante. Et cette âme, la Bible dit qu'elle retourne à Dieu. Et qu'elle retourne à Dieu pour rendre compte à Dieu de ce qu'elle a été ici-bas sur la terre. Et qu'il y a un seul qui est capable de te permettre, lorsque tu rencontreras Dieu, d'être en paix, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça que les gnostiques ont compliqué dans leur façon d'enseigner cette hérésie. Il y en a même qui ont dit Jésus-Christ, de toutes les façons, il n'est même pas ressuscité corporellement. Donc vous non plus, vous n'allez pas ressusciter à la fin de votre vie terrestre. C'était des faux docteurs. Ils disaient le corps est mauvais. Oh, le corps n'est pas mauvais. C'est ce qu'on fait du corps qui est mauvais. Le corps est un don de Dieu. Même si il doit, à la fin de notre séjour terrestre, retourner à la terre. Mais le corps est une création de Dieu. C'est Dieu qui a créé notre corps. C'est lui qui nous a donné. Le corps en lui-même n'est pas mauvais. C'est ce qu'on fait du corps qui est mauvais. Parce que ce qu'on fait du corps impacte ce corps-là. Si quelqu'un se donne à l'alcool, mais c'est sûr qu'il impacte son corps négativement. Si quelqu'un, comme il le dit sur les paquets de cigarettes, le tabac tue. Bon, c'est écrit maintenant en gros caractères, avec des photos macabres. Ça n'empêche pas. Et on sait bien que celui qui fume, il réduit son espérance de vie. C'est clair. Donc ce corps, il est bien, mais c'est ce qu'on fait de ce corps qui est mal. Et comme nous avons en nous ce principe de faire plus le mal que le bien, donc ce corps, on le trimballe un peu partout, on le fait beaucoup mal. Bref, c'est une fausse doctrine. Tous ceux qui enseignent que le corps est mauvais, c'est une mauvaise doctrine. Et certains ont commencé à faire ça, à Éphèse à l'époque. Et de ceux-là sont sortis une autre secte qui s'appelle les ascétistes. C'est-à-dire, eux, c'est les ascèses, des choses très contraignantes pour le corps. Hein? Et ceux-là, ils ont commencé à dire, de toutes les façons, et le corps et le matériel, tout ça, c'est mauvais. Tant qu'on peut s'en départir, ça vaut mieux. C'est pas ce que la doctrine biblique dit. La Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre, que toute l'humanité est une création de Dieu, que Dieu l'a donnée aux hommes. Même si le mal est là et que l'homme fait plus de mal que de bien, mais dans le principe, Dieu l'a donné pour le bien. Si nous n'avions pas la technologie créée par l'intelligence humaine, qui est un don de Dieu, qu'on soit chrétien ou pas, nous ne pourrions pas, en cette période de Covid, faire tout ce que nous faisons, même à distance. Donc, dire que le matériel est mauvais, c'est une mauvaise doctrine et c'est une méconnaissance du Dieu biblique. Le Dieu biblique a créé l'homme intelligent pour qu'il soit capable de créer des choses qui soient utiles à sa vie terrestre jusqu'à ce qu'il rejoigne Dieu. Et les ascètes, ils ont cette complication de vous faire croire que pour grandir dans le Seigneur, il faut vraiment faire des choses compliquées. Il faut martyriser son corps. Certes, nous savons, nous les chrétiens, que nous avons besoin régulièrement de jeûner. Hein, le jeûne, c'est un exercice de piété. Hein, la piété, l'apôtre Paul en parle même dans cette épître. Il dit à Timothée, exerce-toi la piété. C'est-à-dire que cette piété-là, pourquoi nous jeûnons pour prendre du temps à part. Nous nous privons parfois de certaines joies d'une journée, de deux journées, de trois journées, pour passer du temps à méditer, à prier. Et puis ça nous donne aussi l'occasion de prendre le contrôle sur notre corps. C'est un exercice de maîtrise de soi, le jeûne. Et ça nous permet aussi d'être compatissant. Parce que quand tu te prives de nourriture pendant une journée, tu peux savoir ce que ceux qui n'ont rien à manger vivent. Tu peux savoir ce que la détresse de quelqu'un qui n'a pas pris son repas dans la journée. Et c'est pour ça que ces exercices sont utiles. Ça nous rend compatissants. On peut comprendre et on peut être avec empathie lorsqu'on trouve des gens qui vivent ces situations involontairement. Mais ça nous rend aussi dans une relation spirituelle avec Dieu. C'est pas de ça qu'il s'agit. Les ascètes, ils exagèrent, c'est des extrémistes de tout.
Un peu comme les anorexiques.
On vous pousse à bout dans plein de choses et finalement,
c'est pas ça que Dieu veut.
Et puis de l'autre côté, il y a les antinomistes, c'est-à-dire c'est des gens qui disent, une fois que tu as accepté Jésus, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu n'as plus de restrictions. Voilà. Tu n'as plus besoin de faire attention à la morale parce que tu es sauvé de toutes les façons. La Bible dit que ton salut, il est garanti, il est éternel, peu importe ce que tu fais après de ta vie. Oups!
C'est pas du tout vrai.
Mais comme ils sont super doués dans la façon d'utiliser cette thématique que Jésus a dit, celui qui m'accepte, il a la vie éternelle et personne ne peut l'arracher de mes mains. Donc, ils accentuent cette pensée de Jésus en disant, mais si personne ne peut t'arracher des mains de Jésus, peu importe ce que tu fais. Or, ce même Jésus a dit, on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Il dit, on ne peut pas cueillir des oranges sur un citronnier. C'est pas possible. Même avec la génétique, on sait toujours que c'est un greffé. Donc c'est pas naturel. Naturellement, le citron, tu le cueilles sur un citronnier. L'orange, tu le cueilles sur un oranger. Il dit, c'est comme ça qu'on reconnaîtra ceux qui m'appartiennent. On les reconnaîtra à leurs fruits. Parce qu'ils me ressembleront. Donc, si quelqu'un dit, je suis sauvé, ma vie éternelle, elle est garantie. Et puis, dans son comportement, dans sa façon de parler, dans tout ce qu'il fait, il n'y a rien de similaire à Jésus, il y a un souci. Et les antinomies, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, oh, une fois qu'on est sauvé, bah, on fait ce qu'on veut. C'est ce qu'on appelle la licence. Hein, c'est-à-dire que tu te donnes à cœur joie. Tout ce que tu veux, ton salut est garanti. C'est un danger. Un danger terrible pour la foi, parce que ça détruit le témoignage de Dieu devant même ceux qu'on essaie de... Ils disent, mais si votre Dieu est un Dieu qui vous sauve et qui vous permet de tout faire, franchement, même nous les parents, on ne laisse pas nos enfants tout faire. C'est pas possible. Parce qu'on sait qu'il y a des choses, même si pour l'enfant ça paraît bien, nous on sait que ça va le conduire au mal. Donc nous-mêmes les parents humains, on sait qu'il y a des limites. Et vous, votre Dieu là, il vous sauve, il vous permet de tout faire. Quelque chose qui va. Et puis il y a tous ceux qui sont des, c'est des beaux parleurs. Hein. Il y avait des gens comme ça qui étaient fascinés à cette époque-là par les mythes et la généalogie, surtout des Juifs. Ils aimaient bien parler de leur patriarche, de comment les Juifs ont été. Ils mettaient l'accent et tout l'enseignement était sur les patriarches. L'apôtre Paul dit, mais c'est bien de se rappeler de son histoire, mais quelle est l'implication de cette histoire sur ta vie quotidienne? Si tu es toujours dans le passé, quel est ton présent et quel est ton avenir? Si tu es là pour rappeler dans tous les enseignements ou dans tous tes contacts avec les gens, mes ancêtres, les Gaulois. D'accord? Ils sont Gaulois. Et après? Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour toi? C'est pour ça que l'apôtre Paul, lui, il a pu dire, je fais une chose, fixant les regards vers Christ, je cours pour emporter le prix de la vocation céleste. Laissant ce qui est en arrière, je fixe les regards en avant. Et dit à Timothée, ne fais pas ce genre de discussion, ça perd du temps inutilement. Ça t'embrouille la tête pour rien. Dis à ces gens-là d'aller faire ça ailleurs pour ne pas embrouiller les chrétiens. Les chrétiens ont d'autres choses à faire. Il y a d'autres thématiques plus importantes pour leur vie que celle-là. Et puis, dans cette catégorie, il y en a qui sont des spécialistes de la spéculation. Et l'Église en a été victime. Il semble que si aujourd'hui l'Égypte est redevenue un pays musulman, il faut savoir quand même que c'est un bastion de la foi chrétienne. L'un des théologiens du 4e, 5e siècle, Saint Augustin, était de l'Égypte. On parle de ces grands théologiens, je ne sais pas si c'est Saint-Augustin ou Tertullien, mais en tout cas, il y en a qui étaient de cette partie du monde et que la grande bibliothèque d'Alexandrie était une bibliothèque d'abord essentiellement construite à partir de vraiment de valeurs chrétiennes et tout ça. Mais quand à un moment donné, les théologiens dans cette partie du monde ont commencé à discuter, est-ce que les anges, c'est des femmes ou c'est des hommes? Est-ce que les anges... C'est ce qu'on appelait, ils discutaient des sexes des anges. Hein. Franchement. Que les anges soient des femmes ou des hommes, qu'est-ce que ça change? Mais apparemment, ça les préoccupait. Et ils sont restés sur ces théologies spéculatives et ils ont perdu l'annonce de la bonne nouvelle. Ils ont perdu l'annonce des dieux aux gens, vous avez besoin de Jésus pour changer de vie, pour quitter le mal pour le bien. Et pendant ce temps, l'islam était conquérant. Et parfois, on reproche, en tout cas, il y a des périodes où on a reproché à l'Église d'être dans la spéculation théologique, de développer de grandes théories théologiques. Les chrétiens n'y comprennent rien. Ça perd du temps à tout le monde et ça ne change pas la vie des gens. Ça nourrit notre intelligence, on est plein de nouvelles notions intellectuelles, mais dans le concret, qu'est-ce que ça change? Quand j'étais à la fac de théologie, on nous a appris des mots comme ça. c'était utile parce que nous, on devait enseigner. Donc, effectivement, il fallait qu'on soit instruit pour savoir démêler des choses. Mais quelquefois, je me disais, franchement, moi, je préfère expliquer ça simplement que d'utiliser ce mot, la pneumatologie. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la doctrine du Saint-Esprit. Donc, moi, je préfère dire aux gens la doctrine du Saint-Esprit que de dire la pneumatologie. Parce que la pneumatologie, déjà, le type, il est perdu. Il ne sait pas à quoi ça fait référence. Et puis, c'est une traduction du mot grec, qui veut dire pneuma, qui veut dire esprit. Mais comme on est dans une civilisation où les beaux termes et les grands termes font beau, on en a plein comme ça. La sotorologie. Ça veut dire simplement que Dieu sauve. Donc, c'est la doctrine de comment Dieu sauve les gens. Mais oui. Donc, au lieu de dire comment Dieu sauve les gens, on dit la sotorologie. Ça fait bien dans certains milieux, mais pour les chrétiens ordinaires, ça fait des mots qui deviennent des mots indigestes. Et l'apôtre Paul dit, ces gens-là, franchement, ils n'aident pas les chrétiens. Toi, Timothée, dis les choses simplement pour que les frères comprennent. Comme moi, je l'ai fait. C'est pour ça qu'il nous a laissé 12 lettres. Il nous a écrit par la force du Saint-Esprit pour nous expliquer les choses. Bref, Paul dit à Timothée, fais attention à ces gens-là. Et tu as une autorité sur cette église des faits. S'il y en a comme ça, mets-les dehors. Parce qu'ils ne sont pas en train d'aider les chrétiens à vivre dans la maison de Dieu. Ils les détournent de leur vocation. Ils leur perdent du temps, ils les font tourner en rond. Et leur vie n'évolue pas. Au contraire. Comme on le dit, celui qui ne progresse pas, il régresse. Celui qui stagne, il va finir forcément par rétrograder. C'est pour ça qu'il dit même à Timothée, toi, il faut continuer de progresser dans ta vie personnelle. Et c'est le test que nous allons voir maintenant. Donc, 1 Timothée toujours, chapitre 3, versets 14 à 16. Et ça, c'est un texte qu'on a déjà lu, donc je ne reste pas dessus longtemps, on l'a vu mardi dernier. Mais qu'est-ce qu'il dit dans ce texte? Il dit à Timothée, j'ai bon espoir de venir te voir. 1 Timothée, chapitre 3, verset 14 à 16. J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant tout cela afin que, si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Cette église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Jusqu'au verset 15. Il dit, voici comment on doit se comporter, où? Dans la maison de Dieu. Il dit, mais c'est quoi la maison de Dieu? C'est l'église. Donc il dit, l'église, c'est pas d'abord le bâtiment, tu vois. C'est le rassemblement de tous les enfants de Dieu. Donc quand tu dis, je vais à l'église, dimanche, tu dis, je vais dans le rassemblement de tous les enfants de Dieu. Je vais rencontrer d'autres enfants de Dieu, pour louer Dieu, pour adorer Dieu et pour connaître Dieu davantage. C'est ça l'église. Certes, on a besoin d'un bâtiment, certes, on a besoin d'un lieu pour se rassembler. Mais fondamentalement, c'est le rassemblement des enfants de Dieu. Il dit, c'est pas juste le rassemblement des enfants de Dieu, parce qu'un rassemblement, ça peut être un rassemblement pour un meeting, ça peut être un rassemblement pour une marche, ça peut être un rassemblement pour une réunion. Il dit non, ce rassemblement-là, c'est le rassemblement de qui? Des enfants de Dieu, de la famille de Dieu, de la maison de Dieu. Donc, il introduit une notion qui n'est pas une notion, l'église n'est pas une association. L'église, c'est une famille. Et malheureusement, l'histoire de l'église nous a fait perdre cette notion de famille. On est resté plus sur une notion d'organisation religieuse. Alors que fondamentalement, l'église, c'est d'abord la famille de Dieu. Et si vous lisez cette épître, c'est rempli d'indications qui parlent de famille. Il dit à Timothée, tu es certes un responsable, mais quand tu vas t'adresser à des gens qui ont l'âge de ton papa, parle-leur comme à des pères. Si tu t'adresses à des jeunes gens comme toi, mais c'est tes frères, parle-leur comme à tes frères. À des jeunes femmes, c'est tes sœurs, parle-leur comme des sœurs. À des femmes qui ont l'âge de ta mère, parle-leur comme des mères, parce que ce sont aussi tes mères. Donc, ils tissent des relations familiales. Sauf qu'aujourd'hui, la famille est en danger. Si nous, les évangéliques, nous élevons à chaque fois qu'on touche la famille, c'est parce que Dieu prend pour modèle de l'Église la famille. Donc, si la famille elle-même n'est plus ce qu'elle est selon Dieu, comment on va enseigner aux gens que l'Église, c'est la famille? puisque la famille qu'on nous présente maintenant, c'est une famille qui n'est pas selon Dieu. Nos familles, malheureusement, à cause du péché, à cause de l'individualisme, à cause de l'avarice, à cause de notre méchanceté de cœur, nos familles vivent plus des tensions, des conflits que des choses bonnes. Une famille, mais c'est un cocon d'amour. Une famille, c'est l'endroit où je me sens bien quand je quitte tous les lieux. Mais quand une famille commence à être autre chose, c'est pas là qu'on a envie d'aller. C'est pas ces gens-là qu'on a envie. On commence même à les appeler les gens. Quand tu commences à appeler ton frère dans une conversation avec un ami, bah ces gens-là, il y a un souci. Parce que ces gens-là, ça veut dire qu'il y a une relation qui a été brisée. Il y a quelque chose qui s'est cassé. C'est pas de cette famille que Dieu parle. C'est pour ça que c'est Dieu ce qui peut nous donner la force de vivre la famille. Parce que Jésus, il a été fort et les disciples ont eu du mal un peu avec Jésus. Jésus dit, si votre vie nouvelle n'est pas mieux que les pharisiens, vous savez, les pharisiens, c'était cette secte au sein du judaïsme qui était capable de vivre les commandements de Dieu vraiment à la lettre, alors que c'était des commandements très difficiles. Et il dit, si votre vie nouvelle n'est pas mieux que les pharisiens, bah, franchement, il y a quelque chose à voir. Et les disciples disent, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, si vous n'êtes pas capable, vous, par la puissance du changement que je fais en vous avec l'Esprit de Dieu, d'aimer même vos ennemis, et Jésus, il ne dit pas des choses qu'il ne fait pas. À la croix, alors qu'il sait bien que c'est ces gens-là qui l'ont tué, qui l'ont menti, qui l'ont crucifié, qui lui ont craché dessus, il dit avant d'expirer, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je dis, mais Seigneur Jésus, ces gens-là, tu sais bien qu'ils savent ce qu'ils font. En plus, il y a un qui est passé à tes pieds qui dit, tu n'as pas dit que tu es le roi de juste, sauve-toi toi-même. Mais Jésus dit, pardonne-leur. Parce que Jésus, ce n'est pas celui qui dit, faites ce que je vous dis, mais moi je ne le fais pas. Non. Et quand il dit quelque chose, ce qu'il dit, c'est à notre portée. Parce que lui-même, il a fait. Jésus a pardonné à ses bourreaux. À quelqu'un qui l'a giflé le soir de son arrestation, il dit, mais pourquoi tu me dis? Juste ça. Quand on sait qu'il est le Fils de Dieu, franchement. Alléluia. À cet empereur, ce gouverneur qui lui disait, ne sais-tu pas que j'ai le droit de vie et de mort sur toi? Il lui a répondu, tu sais. Si à l'instant présent, j'avais voulu être délivré, il y a des milliards d'anges qui sont postés dans le ciel et qui sont prêts à intervenir. Mais je suis venu donner ma vie pour ce que j'aime. Comme un mouton qu'on mène en abattoir, il n'a pas dit un mot, alors qu'il était capable de se délivrer. Il en a fait la démonstration lorsqu'on est venu l'arrêter. Lorsqu'on est venu l'arrêter, Pierre était dans sa colère parce qu'il dit, mais ce Jésus, il faut le défendre, c'est un innocent. Qu'est-ce que vous faites? Il a sorti son épée, paf! Il a tranché l'oreille d'une des personnes qui était venue arrêter Jésus. Au mieux, il a touché l'oreille de la personne, l'oreille a été guérie miraculeusement. Mais ça n'a pas empêché ces gens de l'arrêter quand même. J'ai dit, waouh, c'est incroyable. Quand le mal il est là, rien ne peut arrêter les gens. Jésus dit, j'étais avec vous tous les jours, vous avez eu 10 000 occasions de m'arrêter, et là vous venez m'arrêter comme si j'étais un brigand. Je ne suis pas un brigand. C'est pour cette heure que je suis. Donc Jésus, il a démontré quand il parle d'amour. Bien-aimé, c'est pour ça que nous insistons, que la Bible insiste, qu'il n'y a que Dieu qui est capable de changer nos cœurs. Il n'y a que le Saint-Esprit, par la force de Jésus, qui est capable de changer nos cœurs pour nous donner de vivre dans la maison de Dieu comme la famille de Dieu. Et il dit à Timothée, plus loin, dans 1 Timothée 4, verset 12 à 16, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ce n'est pas parce que tu es jeune. Il dit la question de la foi et de l'engagement pour Dieu n'a rien à voir avec l'âge. Ça a à voir avec la fidélité et la détermination. Si on a compris qui est Jésus et quel amour il vous a porté. Il dit, toi Timothée, tu l'as compris. Alors vis comme quelqu'un qui a été béni de l'amour de Dieu. Si on n'a pas compris que Dieu nous a sauvés d'un danger imminent, vous savez, parfois on n'a pas l'impression qu'on est dans des dangers imminents. Mais il faut se convaincre que sortir ce soir le matin et rentrer le soir n'est pas une évidence. Nous, on a acquis ça pour une évidence.
Mais vous savez, dans le monde, tous ceux qui sortent le matin, qui rentrent pas le soir, vous pouvez en compter. À chaque fois qu'on rentre chez vous, dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Que je suis sorti. On a pris ça pour une évidence. Parce qu'on est capable de planifier sur des dizaines d'années, on a pris ça pour une évidence. Dans Luc, le chapitre 15, chapitre 16, il y a ce riche qui est tellement riche et qui dit, ha, 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 j'ai bien amassé. Je peux me poser, j'en ai pour des décennies devant moi, je suis tranquille. Et Jésus dit que cette même nuit, il y a une voix qui s'est fait entendre à lui qui dit, insensé, imbécile que tu es. Tu crois que ta vie dépend de tes biens matériels? Il dit, cette nuit même, ta vie te sera arrachée et tout ce que tu as engrangé, à qui ça va servir, tu me diras. Et Jésus dit que la vie d'un homme, aussi riche soit-il, ne dépend pas de ses biens, mais dépend de Dieu. Dépend de Dieu. Donc chaque seconde que nous avons en plus sur la terre, c'est Dieu qui nous la laisse. C'est lui qui décide. Et parfois, on est triste quand il a décidé de prendre quelqu'un de cher. Lundi dernier, dans cette même salle, on a rendu un hommage à une chrétienne qui est partie. Mais tous ceux qui ont témoigné ont dit, tu es partie trop tôt parce qu'elle avait encore de l'âge, mais la maladie l'a prise. C'est Dieu qui décide. Et pourtant, cette même maladie, elle touche d'autres qui ne vont pas partir. On n'est pas en acier. On est de chair. Parce qu'on est de chair, nous sommes tous fâchés. Tous fâchés. C'est la grâce de Dieu. Il dit, Timothée, à cause de cette grâce, vis comme un enfant de Dieu. Vis comme un enfant de Dieu dans ta façon de parler. On dit aujourd'hui, et c'est là que je vais m'arrêter parce qu'on va continuer dimanche prochain, on dit aujourd'hui que nous sommes devenus des meurtriers dans nos façons de parler. Parce qu'on dit que notre société est devenue plus violente verbalement que même physiquement. On a un verbe tellement destructeur qu'un chanteur a dit, nos paroles ressemblent à des kalachnikovs chargés. On tire à boulet des canons sur nous. Ta, 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 ta. Nos paroles. Et il dit à Timothée, et c'est là que je m'arrête pour aujourd'hui, verset 14, au verset 13, il dit, continue de lire la parole, de méditer cette parole, parce que c'est elle qui a les instructions pour ta vie et pour la vie de ceux que tu vas enseigner. Mais tu as aussi reçu un don pour te mettre au service de la famille de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour la génération avant moi et pour ma génération à moi, tu ne pouvais pas être dans la famille sans avoir une tâche à faire. C'est pas possible. N'est-ce pas, Nico? Tu es à la maison, t'as ta tâche aussi, hein. Parce que la famille a besoin de chacun pour que la maison tourne, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est pas évident, mais on va y arriver. Mais c'est pas évident et ça fait que les parents fatiguent plus puisque ils font tout. Ils font tout. Et le danger, c'est que les enfants, comme ils n'ont pas su faire quand ils étaient jeunes, ils ne sauront pas faire après. Ils n'ont pas appris. Qu'est-ce que tu veux? Il dit à Timothée, tu as reçu un don que tu dois mettre au service de l'Église. Ne le néglige pas. Fais ton service dans la maison de Dieu. Fais ton service dans la maison de Dieu. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui appartenons à cette famille de Dieu, chacun de nous a un service à faire dans la maison de Dieu. Parfois on ne le sait pas, ou parfois on s'interroge, et dans les prédications de dimanche prochain, je viendrai dessus en détail. Et je donnerai des détails très précis parce que l'apôtre Paul en a parlé dans l'épître à Corinthiens et dans l'épître aux Romains. Donc je reviendrai dessus en détail. J'ai dit mardi que j'allais dire dans mon témoignage quel est mon service. Ça prend du temps pour savoir à quoi Dieu nous appelle. Mais beaucoup qui ont témoigné mardi ont dit la chose qu'il faut faire, c'est de commencer à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Il y a tellement de choses à faire dans la maison de Dieu. Caroline, quand elle a commencé son cheminement chrétien, elle a été investie dans l'école de dimanche, l'enseignement des enfants. Elle a été investie aussi dans l'accompagnement des jeunes filles quand elle était jeune fille. Parce qu'il y avait une équipe de jeunes filles qui faisait des réunions pour les jeunes filles. Et puis, on s'est mariés, on a appartenu à l'église. Elle s'est investie dans le comité d'action sociale. Et c'est notre pasteur à l'époque qui lui a demandé, « Ah, j'ai besoin de quelques-unes pour vraiment mettre le comité d'action sociale pour aider Elle a répondu oui. Elle a fait partie du conseil. Et moi, c'est aussi pareil. J'ai commencé mon service chrétien parce que j'étais tellement fou de Dieu. J'ai découvert que ce Dieu m'aimait tellement. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Et on m'a expliqué que c'est en servant dans l'église et en aimant les autres. Et à l'époque, j'ai dit à l'église où j'étais, mais qu'est-ce que je peux faire? Il y avait un besoin à l'école le dimanche. On m'a dit, tu peux aider la monitrice. C'est pas le truc que je savais faire. Et avec les enfants, c'est un peu compliqué. Mais je suis allé quand même. J'ai fait 2 ans avec une tantie qui était vraiment une bonne coach. Elle s'appelait Tina Muzawa, celle qui nous a coachés à l'école le dimanche. Mais elle a bien vu que c'était un peu compliqué pour moi parce que la patience avec les enfants à ce moment-là, c'était pas trop ça. Hein? Et puis après, je me suis retrouvé avec l'équipe de jeunes à l'AGM. On était jeunes à l'époque. Hein, voilà. Le pasteur nous a dit, voilà, formez une équipe, vous allez conduire les activités. Et ça, j'ai aimé d'être avec les jeunes. Et jusqu'aujourd'hui, c'est un ministère. Je suis toujours en train d'accompagner les jeunes. Parce que pour moi, c'est tranche d'âge. C'est là qu'on a besoin de dire Jésus. Vous aimez, vous avez un capital que vous ne devez pas détruire. C'est le bon moment de ne pas détruire ce capital. Certains n'ont pas pris conscience, ils l'ont détruit, mais ils en ont payé le prix plus tard. Et moi, vu que Dieu m'a sauvé au bon moment, avant que ce capital ne soit totalement détruit, j'ai vu comme une urgence d'avertir tous les jeunes. Attention, vous avez une grâce, Dieu vous aime, faites attention, donnez-lui vos vies, parce que là, il va vous donner des choses incroyablement merveilleuses. Bref, et puis finalement, à cause de ce cœur pour les jeunes, je me suis investi dans pas mal de choses. Mais je me suis investi, je crois, peut-être un peu avant que je devienne chrétien, j'aimais les gens. J'aimais soutenir les gens. Et quand je suis devenu chrétien, Dieu l'a transformé en don de berger, prendre soin des gens. Et c'est pour ça que je suis devenu pasteur. Donc, quelquefois, on cherche ce que Dieu a mis en nous, mais quelquefois, c'est déjà là. Faut juste être accompagné, enseigné, pour que ça prenne un sens nouveau. Ah, c'était ça. Combien d'amis en moi m'ont dit, Serge, toi tu seras parce que je dis arrêtez. Parce qu'à l'époque, je voulais devenir un grand économiste. Et je m'étais dit que je devenais un grand économiste et que je financerais l'église. Je donnerais beaucoup d'argent à l'église. Ils disent, ouais, mais tu seras quand même pasteur. Je dis, wow. Et puis les années ont passé. Puis j'ai commencé à aimer, m'investir pleinement dans les groupes universitaires pour aller en mission. Et puis finalement, dans la mission, j'aimais accompagner les gens, être proche des gens, prier avec les gens, être là auprès des chrétiens pour les encourager, les exhorter à ne pas baisser les bras. Et puis naturellement, les gens venaient à moi pour que je les exhorte, pour que je les encourage. Et j'entendais à chaque fois, tu sais Serge, la fois où tu m'as parlé, où tu as prié avec moi, ça m'a fait du bien. Je ne savais pas que c'était ce nom. Et puis au fil des années, les aînés qui m'ont accompagné m'ont aidé à discerner ce nom. Ça a pris un petit temps. Ça a pris un petit temps, mais quand c'est clair, on en a prié avec Caroline, et puis je me suis engagé comme pasteur. Voilà. Donc, il dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu, qui t'a été même dit par les anciens, par les responsables de l'église. Donc, eux aussi, ils ont discerné que tu avais ce don. Ils ont même prié pour toi. OK? Dans cette phase où l'église a besoin de tous ses enfants, où cette famille a besoin de tous ses enfants, je prie que Dieu te montre là où il a besoin de toi, dans sa maison, pour son service. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas dans un bâtiment. Tu viens dans la famille de Dieu. Tu viens dans la maison de ton père pour rencontrer d'autres frères, d'autres mamans, d'autres papas, pour être ensemble, pour faire quoi? Il dit très tôt, c'est pour que l'amour de Dieu soit pleinement manifesté en nous et que nous puissions le communiquer à tous ceux que Dieu met sur notre chemin. Amen. Voilà ce que je voulais vous communiquer ce matin. Mais nous continuerons dimanche prochain avec la suite de cet enseignement. Seigneur, on veut te remercier. Moi, j'ai compris ce que je devais partager avec mes frères ce matin. Ma prière maintenant, c'est que eux, ils aient capté quelque chose de ce que j'ai dit. Et que ton Saint-Esprit aide chacun d'eux à en faire bon usage par la puissance de cet esprit en nous.
et par la bénédiction de Jésus-Christ. Amen.
Voilà, merci encore à notre pasteur, parce que Dieu s'est vraiment s'est servi de lui pour nous parler, et je crois que nous avons besoin, en tout cas moi j'avais besoin d'entendre tout ça, que nous puissions vraiment nous rapprocher de Dieu en fait, hein, et ce que je retiens en fait, et plus nous serons proches de Dieu, plus nous serons éloignés du mal en fait, et plus nous allons